Galates chapitre 6. On va lire les versets 1 à 18. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, et vous. Amen. On arrive à la fin de cette épître aux Galates, passionnante, j'imagine, pour tout le monde. Et on a vu Paul défendre cet évangile contre toutes les influences qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, et en particulier les faux docteurs, et qui avaient une autre notion du salut, et parlaient plutôt d'un salut par les œuvres, comme la religion aujourd'hui. On avait vu le contraste qu'il y avait entre la loi, et c'est ce que fait Paul, qui mène finalement à la mort, si on veut absolument la pratiquer, alors que la grâce, elle, c'est une bénédiction qui amène vers la vie éternelle. Il y a un sacré contraste, là. Rappelle aussi la liberté que nous avons en Christ, toujours en contraste par rapport à ceux qui veulent se mettre sous la loi, et donc qui sont quelque part esclaves de la loi, et qui s'enchaînent finalement à cette loi et qui n'ont aucune liberté. Être chrétien, c'est être libre. Ce qu'il y a beaucoup de gens qui, avant de devenir chrétien, se disent « Ah, quand je vais être chrétien, je ne vais plus pouvoir rien faire. » Mais vous êtes beaucoup plus libre quand vous êtes chrétien que quand vous ne l'êtes pas. Parce que là, vous vous rendez compte de toutes les chaînes que vous aviez autrefois, quand vous n'étiez pas chrétien, et que le Seigneur vous a délivré de tout cet esclavage. Et là, on dit « Ah, je suis léger d'un seul coup. » Et donc là, maintenant, il va montrer le contraste qui est entre l'amour, ou la pratique de cet amour dans l'Église, par rapport aux œuvres des légalistes. Donc il parle de cette pratique de l'amour et il va prendre plusieurs cas qui se trouvent dans l'Église. Et le premier, c'est comment je vais reprendre quelqu'un qui est dans l'erreur. La première réaction quand on voit un homme dans le péché, c'est « Oh, quelle horreur! T'as vu ce qu'il fait? Quelle horreur !» Et il se dit chrétien. « Ah non, moi je ne veux plus parler à ce monsieur-là. » C'est ce qu'il dit dans son épître, c'est comme ça qu'il faut réagir, non? Non, je crois qu'on ne dit pas la même chose, ouais. Non, il y a une attitude à avoir. Alors déjà, au début, il parle d'un homme qui est surpris en faute. Je ne sais pas si vous voulez parler forcément d'un frère, mais de toute façon, l'attitude est la même pour un homme qui n'est pas un frère, ou pour un frère ou une sœur. Peut-être qu'il pensait aux judaïsants, comment reprendre ces judaïsants qui prêchaient des fausses doctrines. Est-ce que je vais le prendre à lui taper sur la tête, ou est-ce qu'il y a une manière, une attitude de le reprendre de son erreur? Littéralement, le mot « reprendre » ou « celui non, pardon, qui est pris en faute », c'est celui qui est dans l'offense ou qui aurait offensé, qui est dans le péché ou qui aurait peut-être chuté, tout simplement. Peut-être que Paul veut faire un contraste avec les religieux qui étaient légalistes, là. Et vous savez, quand on va amener une femme pécheresse à Jésus, une femme adultère, qu'est-ce que les pharisiens voudront faire de cette femme? La loi, la lapider. Voilà, c'est réglé. On oublie que pour un adultère, il faut être deux. Il était où, le monsieur? Bah oui, non, ça c'est encore une histoire de... Hein. Mais voilà la différence entre la religion ou le judaïsme qui appliquait à la lettre la loi. Alors il fallait le faire, oui, mais il y a peut-être une autre manière de le faire. Et puis, par contraste, l'amour que le Seigneur voudrait qu'on ait pour ceux qui sont dans l'erreur. Oui, on n'est pas content quand quelqu'un est dans le péché. Même nous-mêmes, quand on est dans le péché, on n'est pas heureux. Mais il n'y a pas besoin non plus de s'arracher les cheveux et de tomber dans les pommes. Parce qu'on pêche tous. Et même si c'est extrêmement grave. Parce que si je réagis mal, ou si je suis un peu légaliste, je vais complètement décourager la personne et peut-être pas l'amener vers la repentance comme Paul voudrait qu'on fasse. Alors qu'en essayant de comprendre, il dit justement, le frère qui est spirituel, ben, il doit redresser cette personne. Hein. Celui qui est spirituel, c'est celui qui marche selon l'esprit, selon les définitions qu'on avait avant, c'est-à-dire un chrétien normal. Il doit redresser cette personne, le mot grec dit de le tirer vers la perfection ou le réparer. Bon. On se comprend quand on dit le réparer, hein. Mais c'est ça, il y a eu quelque chose qui ne va plus dans le cœur d'une personne des fois, et ça peut nous arriver à chacun d'entre nous. Et moi qui suis spirituel, moi qui suis frère en Christ, ben je veux aider cette personne avec beaucoup d'amour pour l'amener tout doucement de nouveau vers l'état initial dans lequel il était. Et il faut faire ça avec un esprit de douceur, un esprit d'amour. Le jugement, ça c'est les judaïsants, eux jugés. Voilà. Mais nous, en tant que chrétiens, on veut le faire avec gentillesse. Quand nous tombons dans le péché et qu'on se mette devant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'épée. Encore, t'as péché, tu m'énerves, tu me fatigues. Non, si on se repent, il nous accepte et il nous pardonne avec gentillesse. Alors évidemment, il ne faut pas non plus se moquer de lui, à force de le faire, mais quand même. Ben, si le Seigneur m'accueille de cette manière-là, pourquoi moi j'accueillerais pas celui qui est aussi dans le péché à ce moment-là? Oui, c'est pas bien, ok, mais le but c'est pas de le juger, le but c'est de l'accompagner à en sortir. Tout le monde peut peut-être pas le faire des fois, selon le niveau de péché, peut-être on est d'accord, mais l'idée c'est pas de le juger. Et surtout, parce que avant de vouloir juger l'autre, Paul dit, mais prends garde à toi-même, regarde un peu ce qui se passe chez toi. Hein, mets en tête que, ok, tu es en train d'accuser l'autre, mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors là, on le voit peut-être, si on parle d'adultère, ça se voit des fois, mais qu'est-ce que toi tu fais que personne ne voit? Là aussi, le Seigneur pourrait te reprendre. Donc quand je reprends quelqu'un, j'ai en tête que moi-même, je suis loin d'être parfait, que moi-même, je peux chuter, que moi-même, je dois rester dans l'humilité. Et quand je suis dans l'humilité, j'ai beaucoup plus de clémence aussi vis-à-vis de celui qui est dans l'erreur. Parce que moi-même, je peux être tenté, comme dit Paul, peut-être par le péché de l'autre, hein, si on parle du judaïsme à ce moment-là, et de vouloir absolument être sauvé par les œuvres, ben je peux être tenté aussi, en voulant aider l'autre. Ou alors, je peux être tenté par mes propres péchés moi-même. Mais avant d'aller voir l'autre et de le juger, on s'arrête, on se regarde dans un miroir, ça calme tout de suite, normalement, et donc on n'ira pas avec un esprit de jugement vers l'autre en face, mais avec un esprit d'amour. Parce que j'aimerais que si c'est moi qui chute, et que c'est lui qui doit me reprendre après, si je l'avais jugé, il va faire pareil. Et là, c'est bien fait pour moi, quelque part. Puis il parle d'une attitude d'amour pour le frère qui est dans la difficulté. Ça nous arrive d'avoir des fardeaux, parce que la vie, ben, elle n'est pas toujours facile. Et c'est accorder de l'aide à celui qui, à un moment dans sa vie, ben, va avoir des épreuves, des difficultés. Le mot fardeau parle de charge, de poids, même de fatigue. Il peut arriver hein, d'être fatigué spirituellement. Voilà, on laisse tout tomber. Ben, moi qui suis spirituel, ben je peux peut-être aller aider. Il y en a qui pensent que peut-être dans le contexte de Galates, ce serait peut-être ces gens qui étaient chrétiens, mais qui étaient tentés peut-être par le retour à la loi et qui finalement auraient chuté. Bon, prenez ce que vous voulez, mais il y a tellement de fardeaux qu'on peut porter en tant que chrétien dans notre vie qu'on a le choix. Mais moi qui suis spirituel, je dois être sensible aux autres. Des fois, j'accueille les gens et puis les gens ils disent ça va et je dis non. Et puis les gens ils continuent. Pourquoi? Je viens de dire non, ça va pas. C'est marrant, c'est un bon test, hein, essayez. C'est que c'est des habitudes tout simplement. Mais ça peut nous arriver de ne pas aller bien. Mais moi qui suis spirituel, je vais être sensible justement à celui qui va pas bien. Et évidemment, il faut connaître les autres. Bon, on parlait de communion fraternelle, c'est comme ça que ça va se faire aussi, je crois. Et agir comme cela, comme dit Paul, c'est accomplir tout simplement la loi de Christ, c'est le principe de l'amour. Il avait parlé que la loi se résume dans l'amour, d'aimer son prochain, c'est le plus grand des commandements de la loi. Alors le légaliste lui est jugé, et le chrétien lui est plein d'amour, et finalement accomplit la loi alors que le légaliste ne l'accomplit pas. Il y a une forme d'ironie là aussi quelque part. Et c'est la mise en pratique de sa propre, de sa théologie, on va dire. Hein. Quand moi, je sais qu'il faut que j'aime mon prochain et que le Seigneur me demande, j'applique tout simplement ma théologie. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la théologie, parce que c'est dans tous les aspects de notre vie. Mais là, on parle de l'amour uniquement. Mais aider sans chercher aussi de vaine gloire, parce que là encore, c'est tellement subtil, hein, des fois, l'être humain, c'est qu'on peut vouloir aider. Maintenant, quel est mon motif aussi ? Parce qu'il y en a qui vont aider le prochain en se disant « Regardez comme moi j'aide le prochain ». Et là, on tombe dans l'orgueil. Et oui, en voulant faire quelque chose des fois de bien, on peut tomber dans le travers. Ou alors je peux faire par intérêt. Je t'aide aujourd'hui, mais j'attends peut-être que tu me payes ta voiture la semaine prochaine, on verra. Hein, bon, si quelqu'un veut m'en payer une, hein, n'hésitez pas. Ou un avion, c'est encore mieux un avion. Mais je peux aider quelqu'un avec un motif mauvais. Je ne sais pas si on s'est déjà rendu compte de ça. Et simplement pour montrer aux gens, regardez comme je suis quelqu'un qui est bon et gentil. On va aller voir qu'est-ce que tu fais discrètement à l'écart. Et on va voir si tu es vraiment si bon. Hein. Il y en a qui se sentent supérieurs spirituellement, un peu comme les légalistes, hein, certainement. Et eux, ils avaient compris comment on est sauvé. Ils avaient tout compris et ils voulaient l'imposer aux autres. Mais moi-même, des fois, dans la volonté d'aider quelqu'un, je peux me sentir au-dessus de lui, spirituellement. Ou au-dessus des autres, en disant, mais voilà, c'est encore moi qui ai aidé, c'est encore moi qui ai prié, c'est encore moi qui ai fait ça. Vous voyez, comme c'est tellement subtil, l'être humain, on peut vouloir faire le bien et en même temps tout de suite déraper nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il disait, faites attention à vous-même. Et Paul dit, il ne faut pas croire être quelqu'un. Alors, on est quelqu'un. Hein, hier, on parlait du moi, pendant l'école du dimanche, le groupe PAF. Hein, mais on est quelqu'un. Mais attention de ne pas se dire, waouh, je suis le sauveur de l'Église, hein, les gars. Moi, je suis le pasteur, et chaque fois que vous n'allez pas, c'est moi, grâce à moi, que vous allez mieux. Hein. Mais il y en a qui sont comme ça. Eh ouais. Alors, c'est peut-être pas flagrant, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein, que l'aide. On peut se prendre pour quelqu'un, un super musicien, un super orateur, un super diacre, un super je sais pas quoi. Oh, calmons-nous. D'abord, il y a d'autres passages qui disent que tout ce que l'on peut faire, les dons, c'est Christ qui nous les a donnés. Donc déjà là, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, je crois qu'on serait très loin d'ici. Donc ne croyons pas être quelque chose. Et puis, si on se croit être quelque chose, on regarde la croix et puis on se rend compte que, effectivement, on va revoir tout ça peut-être à la baisse. Hein. Le mot en grec, c'est se tromper. Hein. S'abuser, ça veut dire je me trompe. Je ne suis pas quelqu'un. Alors évidemment, on est une personne, on essaie de servir. Je suis serviteur, mais un serviteur est humble et obéissant à Christ. Hein. Mais je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je fais simplement ce que le Seigneur me demande de faire et avec son aide. Donc en aucun cas, je ne peux jamais me glorifier de ce que je fais. Par contre, je peux être reconnaissant quand quelqu'un dit « Ah, tu as bien prêché, tu as bien visité, tu as bien fait ces choses, pourquoi pas ?» Mais on peut accepter la reconnaissance de quelqu'un sans tomber dans l'orgueil en disant « Oh, vous avez vu comme je suis. » Dieu connaît les motifs de nos actions. Si je veux aider quelqu'un, si je veux assister quelqu'un, si je veux encourager quelqu'un, il sait exactement ce qui se passe dans notre cœur. On ne trompe pas le Seigneur non plus. Donc, autant le faire avec des motifs purs et assister les autres avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Il y a un remède à cette humilité, nous dit Paul. Hein. Examinez vos œuvres à vous. Hein, ça rappelle cette fameuse poutre qui est dans notre œil, et alors qu'on voit seulement la paille qui est dans l'œil du voisin. Oh là là, mais regardez la paille qu'il a, énorme. Alors que vous avez un gros machin dans votre œil à vous. Hein. Examinez ses propres œuvres. Et c'est alors que Dieu seulement sera glorifié, parce que ce que moi je vais faire, je vais le faire avec lui et grâce à lui. Aider, c'est pas grâce à moi. Hein. Vous savez, c'est pas toujours évident d'aider les gens. Et s'il n'y avait pas le Seigneur qui nous aidait aussi à avoir les mots, l'amour, la patience, ben on n'irait pas bien loin. Et finalement, c'est Christ qui est glorifié au bout dans ces moments que nous voulons aider les personnes. Chacun portera son propre fardeau. Alors, quelqu'un disait, des obligations que Christ pose sur ses disciples est comme un fardeau qui contraste avec les préceptes des pharisiens, justement, ces derniers étant à observer sous un contrôle plus oppressif. Ils avaient des fardeaux, mais c'était obligé, les légalistes. Hein. Ils n'avaient pas le choix, c'était la loi, il fallait le faire. Nous, on les porte, ces fardeaux-là, ces fardeaux, et le Seigneur nous dit qu'ils sont légers, normalement. Et on va les porter, mais avec le secours du Seigneur, et on va aider les autres avec beaucoup d'humilité. Chacun, en tant que chrétien, est responsable, quelque part, de ce fardeau qu'il porte lui, mais aussi peut-être des fardeaux des uns et des autres. Et quand quelqu'un dans l'Église ne va pas bien, On ne va pas juste lui dire des fois, bon, on va prier pour toi, si on peut l'aider. Ça peut être matériellement ou de toute manière, mais il ne s'agit pas simplement de dire, oui, on va prier pour toi. Hein. Puis généralement, on ne prie jamais pour cette personne. C'est bien triste. Et puis, un troisième cas, c'est cette attitude d'amour pour le frère qui enseigne. Assurer le soutien financier, soit des pasteurs, soit des prédicateurs, soit des missionnaires ou des orateurs qui passaient dans ces églises. Peut-être que s'il parle de ça, c'est que ces judaïsants, à ce moment-là, ben, disaient à ceux qu'ils étaient en train de prêcher, entre guillemets, ben, arrêtez de donner dans votre église à ceux qui vous enseignent, donnez-nous l'argent à nous, les judaïsants, hein, donnez-nous l'argent à nous, les religieux, comme ça, on va vous aider, quelque part. Certainement que c'est le bon contexte. Hein. Mais la responsabilité des chrétiens, c'était évidemment, et il y a d'autres passages qui le disent, de soutenir ceux qui enseignent dans l'Église par les moyens qu'ils peuvent, évidemment. Hein. Si on est riche, c'est bien si on peut aider le pasteur ou pas. Si on ne peut pas, on fait d'une autre manière. Mais surtout, je pense aussi dans le domaine spirituel. Parce qu'il dit faire part de tous ses biens, ce n'est pas de l'argent, forcément. Le mot bien, c'est agathos. Et ça veut dire ce qui est bon, ce qui est salutaire, ce qui est honorable. On ne parle pas d'argent, forcément, là-dedans. Et comment on peut soutenir ceux qui enseignent dans l'Église ? En faisant part de ses biens, ben, par la prière. Prier, c'est bien, non? Prier pour le pasteur, c'est bien. Prier pour moi, j'ai besoin. Mais ben, oui, j'en ai besoin. Il faut pas croire. Hein. Le pasteur, il prie pour vous. Ben, c'est bien quand l'inverse arrive aussi. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un dit que je prie pour toi. Non, pas une fois par an, j'espère. Parce que, bon, j'en ai un peu besoin de plus. Et on a tous besoin de prier les uns pour les autres. C'est pas que pour moi. Hein. On peut soutenir donc par la prière, par l'encouragement aussi. Hein. Quand un pasteur voit les progrès des uns et des autres, vous savez, il s'envole. Hein. Il est heureux de voir quelqu'un qui va se faire baptiser, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui apprend à pardonner l'autre. La fréquentation de l'Église, ça encourage ceux qui sont responsables dans l'Église. Donc il n'y a pas besoin forcément d'argent. Hein. Il y a d'autres manières d'encourager, de faire du bien et d'assister celui qui enseigne. Donc vous avez du travail. Hein. Comme moi, j'ai du travail pour vous. Donc on peut assister financièrement, on peut assister spirituellement ceux qui œuvrent dans l'Église, et plutôt que le donner à ces légalistes qui, finalement, prenaient tout pour eux. La foi et la grâce, nous dit Paul, conduisent à un vrai amour, un amour qui est pratique, et qui est pratique dans tous les domaines de la vie. Il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent de cet amour en pratique, mais là on s'est restreint à ces trois domaines. Et quand on aime, il y a une moisson au bout. Ou quand on n'aime pas, il y aura aussi une moisson. Mais on récolte toujours ce qu'on sème. Toute attitude va récolter sa moisson. On ne se moque pas de Dieu, dit Paul. Ça veut dire, le mot grec veut dire on ne tourne pas le nez ou on ne ricane pas. Hein, comme nous. On s'en fiche de ce que Dieu pense, hein, quelque part. Oui, mais on récoltera ce qu'on a semé. Et on ne doit pas snober cette vérité aussi de Dieu qui est immuable. C'est Dieu qui nous le dit. Hein, on ne peut pas dire, ouais, bon, écoute, hein, on verra bien pour la moisson, hein, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je n'ai pas envie de servir, on verra. Mais on ne doit pas se snober, parce que c'est une vérité qui revient plusieurs fois dans la Bible, qu'on récoltera effectivement ce qu'on a semé. Hein, il ne faut pas croire, si vraiment je suis fainéant spirituellement, si je n'ai pas envie d'avancer, si je fais, voilà, ben je vais récolter ça à un moment. Et il ne faut pas croire que Dieu, dans sa compassion, son amour et compagnie, il a dit qu'on passera devant le tribunal de Christ et on récoltera ce qu'on a semé, ou pas. Donc on ne snobe pas le Seigneur. Il y a deux façons de semer, nous dit Paul. Certainement que là, il faut rester peut-être dans le soutien financier dont il parlait, dans le contexte, mais peut-être on peut aller un peu plus loin. D'abord, on peut semer pour sa chair, c'est-à-dire faire des choses qui sont contraires à ceux de l'esprit. On avait parlé du fruit de l'esprit et des œuvres de la chair la semaine dernière. Donc ce qui est contraire au Saint-Esprit, c'est la gloriole, peut-être comme c'est judaïsant, l'orgueil, ou peut-être donner l'argent, mais pas forcément pour le royaume de Dieu. Eh bien, il moissonnera de la chair sa corruption, nous dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire que tout ce qu'ils auront fait pour leur orgueil et compagnie, ben, au moment où Jésus reviendra, ben, Jésus dira, ben, je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce que vous avez fait, en fait. C'est complètement vain. Hein. On connaît, hein, ah, mais on a donné un verre d'eau, on a fait un tas de choses, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, parce que vous avez fait ça juste pour votre chair, pour votre orgueil, mais vous n'êtes pas repenti, vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie. C'est de la religion, tout simplement. Et Dieu ne reconnaîtra pas ces choses-là. Donc ça ne sert à rien de semer dans ce sens-là. Par contre, on peut semer pour l'esprit, avec amour, avec humilité, en investissant dans le royaume de Dieu, pas que forcément financièrement, mais par mon don, par mon travail dans cette église, et parce que j'ai envie de voir l'église grandir. Est-ce que dans votre quotidien hebdomadaire, vous vous dites, j'ai envie de voir l'église des Trichy grandir. Ou vous pensez à votre repas du soir. Ça vous arrive des fois de vous dire, ça serait chouette si l'église des Trichy grandissait. Pas pour l'orgueil, mais ça on s'en fiche complètement. Est-ce qu'on y pense? Je ne veux pas de réponse. On est souvent bien occupé par nous-mêmes, mais on est censé travailler pour le royaume de Dieu. Pour nous, il faut manger évidemment, mais aussi pour le royaume de Dieu. Et ça, ça passe par la croissance de l'église. Et puis toutes les ramifications qu'il y a là-dedans. Mais est-ce que j'y pense? On moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On est déjà sauvé, c'est pas qu'on va récolter le salut, on est déjà sauvé aujourd'hui, mais quelque part on moissonne déjà sur la terre parce que, eh ben, comme on parlait tout à l'heure de l'espérance qu'on a pour notre avenir, ben on se réjouit déjà, non? Vous êtes content de vous dire que vous avez passé l'éternité avec le Seigneur Jésus? Un peu? Un petit peu? Vous êtes fatigué ce matin, j'ai l'impression, hein? Mais ça doit nous réjouir. Alors, on ne comprend pas tout, mais avec un peu d'imagination, on est sauvé, on ne va pas aller en enfer, ça c'est déjà pas mal, je pense. Mais se dire que je vais être avec le Seigneur pour l'éternité, hein, je disais tout à l'heure, on va être face à face avec Jésus. On essaie de l'imaginer dans notre tête, comment il est, barbu, yeux bruns, je ne sais pas quoi. Enfin bon, on peut imaginer en long là, mais un jour on sera en face de lui. Ça va faire très très bizarre quand on sera en face de lui. On a marché par la foi, maintenant on le verra par la vue. Mais on récoltera de l'esprit la vie éternelle. On récolte déjà un peu ses fruits aujourd'hui, mais ça sera pleinement dans l'éternité. Et il dit, Paul, cette moisson se fera au temps convenable. Alors, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs ici, mais on sait très bien qu'on plante et puis il faut attendre un petit peu. Hein, la moisson ne se fait pas juste après avoir planté. Et on témoigne des fois et puis on aimerait bien que les gens se convertissent tout de suite, mais il faut des fois des années. Hier, on avait Shockwave avec le groupe PAF et on parlait de l'église persécutée. Et il y a un homme qui a un jour parlé à un imam simplement, des mots simples. Il a dit, je prie pour toi. Et 5-6 ans après, ils vont me reprendre tout à l'heure, il s'est converti, l'imam. C'est incroyable, un imam qui se convertit juste sur la base d'un petit témoignage. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a semé et on a récolté. Et peut-être des fois on se dit, ouais, est-ce que ça vaut le coup que je parle à ma famille, à ma femme, à mes enfants de Jésus? De toute façon, ils ne croient en rien. Ben oui, ça vaut le coup. Parce qu'on sème, mais ce n'est pas à nous de produire derrière. C'est Dieu qui va s'en occuper. Et un jour, on sera étonné de voir que finalement, ce qui me semblait si bête d'avoir partagé a pu produire tellement de choses dans une vie. Donc on récoltera au temps convenable. Alors on peut déjà récolter durant la vie parce qu'on a une forme de bénédiction partielle, parce que quand on obéit au Seigneur, ben on ne désobéit pas à ses commandements, donc on est heureux. Et la joie de ne pas être dans le péché, c'est une joie réelle, effectivement. Mais on récoltera pleinement quand on sera dans le ciel avec le Seigneur. Et il ne faut pas se relâcher, nous dit Paul, c'est-à-dire nous décourager, être sans force. Mais il faut agir avec amour, même si parfois cela est difficile. Vaut mieux souffrir, et on va parler de ce sacrifice de l'amour après, vaut mieux souffrir avec amour que ne pas souffrir, parce qu'au bout, on va récolter quelque chose. Donc vaut mieux avancer, ne pas se décourager, parce que le Seigneur nous récompensera déjà dans cette vie peut-être, mais surtout quand on sera dans le ciel. Et Paul dit, ne vous lassez pas de pratiquer le bien. Jamais il faut se dire à un moment, j'en ai marre de celui-là. Des fois on a envie de taper sur les gens, ils nous saoulent. Non, ne nous lassons jamais de pratiquer le bien, alors ça passera par des moments difficiles, parce qu'on n'est pas naturellement comme cela, mais il faudra apprendre à faire cela. Tant que nous en avons l'occasion, dit l'apôtre Paul, et ces occasions, nous l'avons au travail, l'occasion de faire le bien, d'être un témoignage, dans l'Église, alors pas que le dimanche, parce qu'on l'a vu, l'Église, c'est pas que le dimanche matin, dans la famille, avec nos amis, et la Bible nous dit aussi avec nos ennemis. Ah, la Bible, des fois, pénible, mais oui. Et ces judaisants étaient quelque part les ennemis de l'apôtre Paul. Alors, c'est pas parce qu'ils sont ennemis qu'il faut... Ah, mes pauvres chéris, il les a repris, sévèrement, mais avec amour et avec la Bible. Mais il faut aussi apprendre à supporter ces gens-là et pratiquer le bien malgré tout. Le Seigneur, quand il était sur la croix, tout le monde le haïssait. Il a quand même accepté de nous aimer et de pratiquer le bien, justement. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que ça a été bénéfique pour nous. Et des fois, peut-être quelqu'un se moquera de vous, un jour, parce que vous témoignez, parce que vous l'aidez, je ne sais pas. Ok, on accepte, ce n'est pas grave, mais peut-être que plus tard, parce que vous aurez peut-être prié pour lui, il aura changé. Et quand vous voyez ça, c'est encourageant, non? De voir quelqu'un changer comme cela. Mais il ne faut pas se relâcher. Il faut pratiquer le bien. Le mot pratiquer le bien, c'est travailler, agir en faisant toujours le bien. En fait, on est appelé à imiter Jésus-Christ, et ben, tout simplement en pratiquant le bien. Et puis Paul dit quelque chose de surprenant un peu, mais il dit « surtout aux frères dans la foi ». Ah ouais, mais moi, ma famille, elle est en premier. Hein. Mon mari, c'est le premier. Hein. Et là, il dit « surtout aux frères dans la foi ». Eh oui, parce que c'est ma famille aussi, quelque part. Alors, évidemment, il faut aimer son mari, sa femme, il faut aimer ses enfants en premier, on est bien d'accord. Mais aimer les frères par rapport au monde, c'est ce qu'il veut dire. Hein. Aimer, soutenir le frère qui est dans la difficulté plutôt que soutenir les gens qui sont dans le monde, dans la difficulté. Et si on peut faire les deux, c'est très bien, évidemment. Mais le frère ou la sœur deviennent prioritaires. Pourquoi ? Comme on l'a dit, c'est ma famille. Vous êtes mes frères et sœurs. C'est génial. J'ai des très vieux frères, j'ai des très jeunes sœurs. Hein, c'est ma famille. Mais on le sait dans notre tête. Mais si on agissait comme nous agissons avec notre propre famille charnelle, avec la famille spirituelle, waouh, ça changerait. On se verrait peut-être plus souvent, comme nous demandait le frère tout à l'heure. On se téléphonait un peu plus. Les SMS, c'est rapide, hein, ça va ? Bip ! 30 secondes, même pas. Mais c'est des petits mots, des fois, qui peuvent être encourageants. Mais je suis là pour ma famille aussi. Et vous savez, cette famille, elle est éternelle. Je suis triste de le dire, mais on sera peut-être séparés de ceux de ma famille charnelle parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Mais cette famille spirituelle, je vais me la taper toute l'éternité. Et oui, c'est pour ça que je prie que vous changiez. Bon, là-haut, on sera parfait, donc ça va. Mais en attendant, on doit vivre ensemble, évidemment. Et si on arrive à s'aimer les uns les autres, à pratiquer le bien les uns les autres, à se chamailler, mais se pardonner, ok, c'est ce que veut tout simplement le Seigneur. Il faut savoir en prendre soin de cette famille spirituelle. Toutes nos actions, nous dit Paul, auront des conséquences. On récoltera ce qu'on a semé, mais évidemment, nous, en tant que chrétiens, ce que nous voulons, c'est que nos actions soient agréées par Jésus-Christ et on récoltera. Et l'amour peut-être des autres, peut-être la conversion de quelqu'un, en tout cas la récompense dans le ciel. Mais aimer l'autre, c'est facile ? Il y en a qui ne répondent pas et ne s'engagent pas. Non, ce n'est pas facile d'aimer le prochain. C'est très difficile même. On n'arrive peut-être même pas à s'aimer soi-même. Bon, là, il y a un gros travail à faire, hein, parce que aime ton prochain comme toi-même. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas aimer l'autre. Ou vous allez l'aimer comme vous vous aimez vous-même. Alors, si vous vous détestez, ben, vous allez détester tout le monde. C'est souvent le cas. Alors, il ne s'agit pas d'être « je m'aime », on est bien d'accord, hein, égocentrique. Mais peut-être qu'il y a un problème avec le Seigneur, là. Et il faut apprendre à confier ça au Seigneur. Moi, j'étais dépressif autrefois, et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Mais le Seigneur a tout transformé. Et c'est formidable ce que Dieu peut faire dans une vie. C'est extraordinaire. Alors, ce n'est pas que je m'aime plus qu'eux. Voilà. Mais quand on se sent bien au fond de nous, on va pratiquer la même chose avec les autres, tout simplement. Si je me hais, je hais l'autre. Et j'agis de la même manière. Mais si je me laisse aimer par le Seigneur, soigner par le Seigneur, je vais agir de la même manière avec le prochain. Mais oui, aimer, c'est un sacrifice. Et la vie nouvelle est un sacrifice. Devenir chrétien, ce n'est pas forcément simple. Et Paul va faire un peu une espèce d'autographe, là. Il va dire, j'écris avec de grandes lettres. Hein. Alors, là, ouais, tous les commentaires qui partent dans tous les sens. Alors, l'adjectif grande, hein, pelikos, en grec, c'est combien est grand. Il est employé une seule fois dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 7, 4, où il est traduit par « Combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin ?» Alors, il y a d'autres traductions, par exemple dans la Darby, on peut lire « Vous voyez quelle longue lettre, je vous ai écrit de ma propre main. » Il parlerait plutôt de longueur de l'épître. Un autre, dans la Français courant, ils disent « Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous le voyez, à la grosseur des lettres. » Grande lettre. Ou la Semeur traduit « Vous remarquez ces grandes lettres, c'est bien de ma propre main que je vous écris cela. » Les interprétations, alors, il y en a qui pensent que c'est la longueur de la lettre qui voulait dire, mais là, 6 chapitres, c'est pas énorme par rapport à Corinthiens et d'autres, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il voulait dire. Ils pensent surtout que Paul aurait écrit la fin de l'épître peut-être en majuscule, dans le grec. Tout en majuscule, simplement pour renforcer son message, pour donner un peu d'autorité et de force à ce combat qu'il était en train de mener contre les judaïsants. Bon, d'autres pensent, avec moi peut-être, après vous choisissez ce que vous voulez, peut-être les tout est juste, hein, mais comme au chapitre 4, il disait que les Galates étaient prêts à s'arracher les yeux pour lui donner, peut-être qu'il avait un problème de cécité, hein, et donc il avait un problème avec ses yeux, mais bon, Je pense que l'idée, c'est quand même que il voulait mettre l'accent sur cet épi qui était tellement important. Ben forcément, hein, prévenir les gens que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais par grâce, c'est très très important, et pour nous aussi, aujourd'hui. Donc vous choisissez l'option que vous voulez, on achètera des lunettes à notre ami Paul. Mais maintenant, je crois qu'il a une bonne vue là-haut. Généralement aussi, on sait que Paul avait un secrétaire, donc quelqu'un écrivait pour lui, mais là, il l'a écrit personnellement. Alors, est-ce qu'il n'avait pas de secrétaire, ou est-ce qu'il avait envie de le faire lui-même, parce que c'était tellement important pour lui qu'il a pris le temps? On verra ça aussi là-haut. Mais ce qu'il voulait, c'est défendre la doctrine. C'était crucial pour lui. Il fallait absolument répondre à ces judaïsants. Et vous savez, Paul a écrit Galates et plein d'autres, où il défend la doctrine. Mais heureusement qu'il l'a fait. Qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui comme écrit? Ah, il y a l'Ancien Testament, il y a quelques évangiles, mais dans la doctrine pure, c'est l'apôtre Paul qui a beaucoup fait de choses. Romains, si on n'avait pas Romains, vous aimez Romains? C'est merveilleux, Romain. Alors, c'est un peu doctrinal, c'est vrai. Mais si on n'avait pas Romain, mais qu'est-ce qu'on saurait sur le salut, etc. Heureusement qu'il a pris le temps de se battre des fois, d'écrire avec des grandes lettres peut-être, mais il a pris le temps de défendre la doctrine. À nous aussi aujourd'hui de défendre cette doctrine, alors qu'elle est aujourd'hui emportée à tout vent de doctrine, justement. À nous de prendre le temps d'étudier personnellement, de me laisser former aussi, hein, d'apprendre, et à pouvoir ensuite transmettre mes enfants, ou peut-être dans l'Église plus tard, mais. Heureusement que Paul l'avait fait. Heureusement que nous le faisons aujourd'hui pour nos enfants ou pour les gens qui vont se convertir dans l'avenir. Parce que aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Et à un moment, on en arrivera à dire aux gens, oui, non, mais il faut faire des œuvres pour être sauvé. Et donc forcément, on va tromper les gens. Mais ça dépend de moi aujourd'hui aussi. Savoir se sacrifier, ce qu'a fait Paul à cause des judaïsants. Hein, les judaïsants poussaient, on l'avait vu, à la circoncision, à aller sous la loi pour. Et en plus, il disait, pour que vous n'ayez pas à souffrir à cause de la croix ou à cause des persécutions, hein, donc c'est la facilité, hein, venez sous la religion, comme ça vous n'aurez pas à souffrir. Faites comme nous et vous ne serez pas persécutés. C'est tentant, hein, des fois, hein, quand vous êtes face au lion, de vous dire, est-ce que je vais me laisser croquer par le lion ou je vais renier ma foi? Ah, je ne sais pas comment on réagirait, nous. Hein. Vous aimez les lions? Dans les cages, hein. Moi j'aime bien dans les cages, mais en face, on ne sait pas comment on va réagir. Hein. Bah, eux avaient réglé le problème, hein. On retourne à la loi comme ça. On ne souffre pas. Et en plus, il dit qu'eux-mêmes n'observent pas ce qu'ils demandent. C'est terrible quand même, hein, ces judaïsants. Faites ce que nous ne faisons pas. Quelle hypocrisie parfois il y a dans la religion. Quand l'homme décide d'inventer ce que Dieu, soi-disant, dit, à ce moment-là, il fabrique et il devient totalement hypocrite. Et eux cherchaient, hein, ces judaïsants, leur propre couloir, hein, en voyant d'autres venir à la loi. Ils se disaient, ben ouais, hein, on a raison quelque part, maintenant on va se glorifier dans notre chair, regardez comme on est bon, etc. C'est triste d'en arriver à cet état-là. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on va dire, ah oui, mais ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui, de l'orgueil dans l'Église, star chrétienne, dans la musique ou dans les orateurs, ou je ne sais pas quoi, il y en a en pagaille. S'ils arrivent à se payer un avion, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. J'ai beau prêcher, moi, j'y arrive pas encore. Hein. Enfin, j'en voudrais même pas. Mais c'est des stars. Et une star, le mot, c'est idole. Hein. Une star. Eh oui. Il y a les méga church aussi. Alors là, quand vous êtes dans une. Moi, je fais partie d'une méga church. Il y a 6 000, 10 000 personnes. Ouais. Tu connais ton voisin? Ah non, je connais deux personnes peut-être dans l'église. Elle est grande, ta méga church. Hein. Moi, je veux connaître tout le monde dans ma. Mini church, on va dire. Je veux connaître tous les frères, sinon ça sert à quoi? Elle est où la communion fraternelle? C'est bien d'être des millions, ça sert à rien d'être des millions. Coupez ça en plusieurs églises, et puis vous verrez, l'avancement du royaume de Dieu ira encore plus vite. Mais juste l'orgueil de dire on est une méga church, hein. Le jour où on sera 100 ici, on va réfléchir à couper en deux. Je suis désolé, hein. Ça va être triste de vous séparer. On n'en est pas là. Mais c'est de l'orgueil. Puis je ne sais pas si vous avez vu la résurrection d'un pasteur en Afrique cette semaine. Non? C'était filmé, alors tout le monde s'est foutu de lui. Mais il y a une vidéo où on voit qu'il ressuscite, mais il y a une autre vidéo que moi j'ai vue où on voyait le gars qui respirait juste avant la résurrection. Donc, comment l'Église aujourd'hui essaie d'attirer les foules par l'arnaque? Quelle tristesse quand je vois ça. Déjà, en tant que chrétien, comment je peux même imaginer ça, le faire, me moquer de Dieu à ce point-là? Hein? Et les gens suivent. Alors, si j'ai ressuscité quelqu'un dimanche matin. Hein, vous imaginez le monde qu'il y aurait à étendre ça, il y aurait tous fous. Hein. Mais non, je crois que Dieu peut le faire, ça n'y a aucun problème, mais c'est pas moi qui vais le faire, ça c'est sûr, et je n'ai pas envie de le faire. Donc désolé, je ne vous ressusciterai pas. Hein. Enfin, mourrez pas non plus, c'est mieux. Sacrifice de cet amour, et l'amour de la croix est un sacrifice, nous dit aussi Paul, hein, puisque lui il se glorifie de la croix et de rien d'autre. Alors les judaïsants, eux, pour eux, la croix c'est carrément un sujet de honte, c'est n'importe quoi. Et eux préfèrent se glorifier dans la chair, mais Paul, lui, se glorifie d'avoir un sauveur. Et pour lui, cette croix, elle a crucifié le monde. Ça n'a plus de valeur, le monde. Alors le monde, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus vivre, hein, d'aller travailler, manger, etc. C'est obligé de faire vos courses. Mais le monde, c'est le système qui s'oppose tout simplement à Dieu, qui est prêt à mentir, qui est prêt à sacrifier les autres. Enfin, vous savez ce que c'est que le monde. Mais pour Paul, tout ça, ça n'a plus aucune valeur. Et comme je le suis pour le monde, ça, crucifié, hein, parce que le monde s'en fiche complètement de Paul aussi. Et le monde s'en fiche complètement de nous aussi en tant que chrétiens. Ah, vous êtes chrétiens, ça va pas, hein, vous êtes de Mars ou je sais pas d'où, hein, vous êtes des gens un peu bizarres. Ok, mais nous, on se glorifie en Christ parce qu'on sait que c'est la vérité. Le monde le verra bien un jour ou l'autre. Quand je me convertis, le monde prend congé, disait quelqu'un, du chrétien. Un commentaire disait, il, c'est-à-dire le chrétien, ne peut jamais croire le monde, jamais en être fier, ni plus jamais lui faire honneur. Le monde est dépouillé de toute sa gloire et démuni de ses attraits et de son pouvoir de séduction. Le monde, ça ne nous intéresse plus du tout à partir du moment qu'on est chrétien, sauf pour l'évangéliser, évidemment. Mais ça ne m'intéresse plus de vivre dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des loisirs, ça veut pas, hein, on est bien d'accord, mais ce n'est pas la première priorité dans ma vie. Il dit ensuite, ce n'est rien d'être circoncis et incirconcis. Il est excellent dans sa défense, hein, parce qu'on pourrait dire, c'est rien d'être circoncis, donc d'être comme les judaïsants, mais c'est rien non plus pour le gars qui dit, ben, moi, j'ai pas envie de me faire circoncire. Hein, quelque part, c'est les païens, là. Parce que ce n'est pas nos œuvres qui importent, et là, je crois qu'on l'a compris durant toute l'épître, c'est pas ce que je fais qui importe, c'est d'être né de nouveau qui importe. De Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont toujours là, non, sont passées. Ah oui, des fois on se demande. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand vous êtes converti, vous avez vu la différence?
Oui.
Bon, c'est pas forcément flagrant, ça dépend comment on était autrefois, on est bien d'accord, mais il y a quand même normalement un avant et il y a un présent ou quelque chose de tout à fait nouveau. Et quand on rencontre Christ, évidemment, tout devient beau. Enfin, j'espère pour vous. Alors, c'est pas que quand on se convertit, hein. Normalement, 20 ans après, c'est toujours beau. Normalement. Mais on oublie très vite, hélas. Donc, ce n'est pas nos œuvres, c'est le fait d'être né de nouveau qui importe. Et ceux qui suivent cette règle, hein, ils parlent du mot en grec, ils parlent de limite, de règle. En fait, ils parlent de ceux qui suivent la règle, c'est-à-dire ne pas être sauvés par les œuvres, mais la règle d'être sauvés par la foi et par la grâce. Hein. C'est-à-dire ceux qui naissent de nouveau, eh bien, ceux-là reçoivent la paix et la miséricorde par la foi. Quand je veux suivre la loi, je n'y arrive pas. C'est difficile et puis finalement ça me tue. Par contre, celui qui est né de nouveau, qui a accepté la grâce, lui comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose dans sa vie et vit en paix avec le Seigneur. Cette grâce, comme dit Paul, est offerte aux Galates, qu'ils soient croyants, et aux Juifs croyants. Il parle de l'Israël de Dieu. Alors certains pensent que l'Israël de Dieu dont il parle là, ça serait l'Église aujourd'hui. On parle d'amillénaristes bien souvent qui disent que toutes les promesses qui ont été faites à Israël ont été transférées à l'Église. Je ne suis pas d'accord avec ça. Venez me voir tout à l'heure, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais certains disent que plutôt l'emploi répété de la préposition, je ne sais pas si vous avez vu, sur, il dit sur tous ceux qui suivent la règle, croyants, et sur l'Israël de Dieu, pour eux indiquer que Paul plutôt essaye de différencier deux groupes-là de personnes distinctes. Dans le Nouveau Testament, il a employé 65 fois le mot Israël pour parler des Juifs. Alors pourquoi d'un seul coup Paul donnerait une autre définition aussi? On peut se poser la question. Certains pensent que Paul fait référence à deux sortes d'Israélites, soit les Juifs croyants, soit les Juifs incroyants. Avant, on était dans le peuple de Dieu en tant que Juifs, mais ces Juifs, comme par exemple Paul, se sont convertis. On appelle ça aujourd'hui les Juifs messianiques. Mais bon, je ne suis pas trop d'accord non plus avec eux, mais c'est un Juif qui est devenu chrétien, tout simplement. Donc il a une nationalité chrétienne, mais il est fait partie de l'Église. Hein. Pas de la nation juive. Enfin, il est toujours juif, mais enfin, on se comprend. Vous avez compris? Bon. On pense que l'Israël de Dieu se réfère plutôt donc à ces Juifs qui sont Juifs de naissance, mais qui finalement ont accepté Jésus-Christ et qui ont intégré l'Église de Jésus-Christ. Donc l'amour, nous dit Paul, en contraste avec le légalisme, est prêt à souffrir pour autrui, comme lui a souffert pour... Oh, pas que les Galates, hein. Les Corinthiens. Oh, les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils lui en ont mis? C'était terrible. Mais il était prêt à souffrir pour eux parce qu'il les aimait, mais parce qu'il voulait que l'Évangile aussi avance. La prochaine fois que vous taquinez les uns les autres, pensez à Paul. Ok, on va se pardonner parce que ce que nous voulons, c'est pas nous prendre des distances les uns avec les autres, c'est stupide. On peut se pardonner, mais ce qu'on veut, c'est que l'évangile avance, c'est tellement plus important que nos égos. Ah, nos égos. Pour terminer cette épître, faire une espèce de conclusion et voir les requêtes de Paul, hein, qu'il demande. Paul demande d'être rassuré au verset 17. Que personne ne lui fasse de peine. Moi, ça me rend triste d'entendre ça. Arrêtez de faire la peine à Paul. Hein. Mais réjouissez-le plutôt de... Hein, c'est pas à cause des cadeaux. Ce qui le réjouit, lui, c'est que vous viviez, enfin, que ces Galates vivent dans la vérité, et qu'ils retournent à la grâce, justement, et qu'ils acceptent cela comme une vérité, qu'ils retournent vers Christ, vers la bonne doctrine. Et quand ben, les chrétiens vivent une vraie doctrine, ben, ça réjouit les pasteurs. Et oui, ça nous réjouit. Et puis ça nous réjouit tous, évidemment, d'être dans la vérité, j'espère. Et puis il parle de ses souffrances, hein, il rappelle les souffrances qu'il a pour Jésus-Christ, les stigmates. Alors là, j'ai vu dans ma vie beaucoup de choses par rapport à cela, mais il dit qu'il porte les marques, c'est-à-dire les stigmates, en grec, hein, de Jésus sur son corps. Donc j'ai cherché un peu des commentaires, mais le mot stigmate vient du mot stizo, qui veut dire « rester ». Ça traduirait une piqûre, une marque. Il y a quelque chose qui reste là, sur la chair. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ces stigmates étaient employés, par exemple, pour un esclave ou un soldat. Ils étaient marqués dans leur chair pour montrer l'appartenance soit au propriétaire en tant qu'esclave ou au maître ou au commandant en tant que soldat. Et on savait, selon la marque qu'ils avaient dans leur chair, qu'ils étaient propriétés de quelqu'un, tout simplement. Et Paul, quand il fait référence à cela, certainement qu'il voulait dire que... Regardez d'abord tout ce que j'ai vécu comme persécution dans ma vie. J'étais lapidé, j'étais ici et ça. Et forcément, il y a lapidé, vous avez peut-être des séquelles après. Hein. Vous voyez les marques dans votre chair que vous avez été persécuté à cause de votre foi pour Jésus-Christ. Peut-être qu'il voulait aussi dire que, ben, regardez, au travers de toutes ces marques que j'ai sur moi maintenant, sur mon corps, ça démontre que je suis la propriété de mon Seigneur. Je lui appartiens comme l'esclave ou comme le soldat à l'époque. Hein. Donc ces marques étaient là comme une preuve de cette appartenance et de ce travail aussi qu'il faisait pour Dieu. Et peut-être en contraste avec la petite circoncision que ces pauvres juifs faisaient, enfin judaïsants, regardez tout ce que moi j'ai vraiment dans la chair, parce que j'ai combattu pour Christ. Alors que vous faites juste un petit truc vite fait, c'est une tradition et ça n'a aucune valeur quelque part. Je pense qu'il y a là aussi un contraste à voir. Et nous, est-ce qu'on est propriété de Dieu? Alors, je ne vous demande pas d'avoir des marques sur la chair, hein. Je ne sais pas que vous n'en avez pas, surtout. Mais si vous êtes dans un pays persécuté, à mon avis, vous en aurez. Mais est-ce qu'on est propriété de Christ? Est-ce que je lui appartiens? Mon cœur devait être circoncis, hein, nous dit Paul aussi. Il y a une marque, normalement, dans notre cœur, de cette propriété que nous sommes par rapport à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt à le suivre?
Ouais.
Vous êtes prêt à le suivre, non? Hein, tout le monde n'est pas convaincu, là. Ok, parce que tout va bien aujourd'hui. On est tous prêts à le suivre, mais si tout va mal demain, je ne sais pas si on va faire le même ouais. Enfin, même oui, c'est plus joli. Mais est-ce que je suis la propriété de Christ? Est-ce que je suis prêt à le suivre et à défendre aussi la bonne nouvelle? Parce que vu que, non seulement l'État, avec la loi 1905 qui est en train de revoir les choses, vu que, d'un autre côté, c'est les évangéliques qui commencent à dire n'importe quoi, à un moment, on va se retrouver là-dedans, mais ça va être un vrai bazar. Et les gens, ils savent plus où ils en sont. Mais alors, comment faire pour nous défendre notre évangile et la bonne doctrine? Ça va devenir très, très, très compliqué. Mais il faut le faire, et on va souffrir, et on va nous prendre... Déjà, hein, nous, les baptistes, on est pris pour des... Hein, d'être de côté, voilà, vous les restez entre vous. C'est pas qu'on veut y rester entre nous, mais on veut pas partager les bêtises avec les autres. Hein. Ça veut pas dire qu'on ne prie pas pour les autres. Hein. Moi, je suis prêt à prier pour les Pentecôtistes, je suis prêt à prier pour tout le monde. J'aime tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais à un moment, il y a des difficultés à travailler ensemble. Hein. Mais voilà. Et puis Paul désire que la grâce de Jésus soit avec votre esprit. Et c'est intéressant parce qu'au bout, il dit « Frère, que la grâce de notre Seigneur ». C'est beau ce qu'il est en train de dire là. Vous êtes dans l'erreur, je vous reprends, vous faites mal, vous me quittez, vous m'embêtez. Et il dit « Frère ». Hein, c'est un petit mot, ça paraît bête comme ça. Mais il a un poids, je pense, quand il dit ça. Donc quand vous m'embêterez ou quand je vous embêterai, rappelons-nous qu'on est frères quand même. Et que même si vous vous égarez à un moment, ou si je m'égare à un moment, eh bien, on peut aller récupérer l'autre. Parce qu'on est frères, parce qu'on fait partie de cette famille, parce qu'on s'aime les uns les autres. On n'est pas là pour se juger. Et là, Paul démontre tout l'amour qu'il avait pour eux, malgré leur dérapage. Et c'est pas simple d'aimer quelqu'un qui dérape complètement, ou alors qui est en colère contre vous. C'est pas simple. Et que la grâce, il dit là que la grâce de notre Seigneur, et non pas la loi, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit l'objet, on pourrait dire, de votre esprit, de votre pensée, que dans votre tête, vous ne pensiez plus comme ces judaïsants, mais que vous pensiez tout simplement selon la grâce de Jésus-Christ. Cette épître, finalement, nous rappelle beaucoup de choses, qu'il y a des fausses doctrines, on l'a dit plusieurs fois. S'il y a des fausses doctrines, oui, je le sais maintenant, mais ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à étudier la Bible, parce que je n'ai pas envie de me faire avoir. Eh oui, on va faire tous oui aujourd'hui, et c'est demain que ça va commencer, d'étudier la Bible. De lire tous les jours régulièrement sa parole, si on peut, on peut. Je ne vais pas faire si on peut, on peut. On peut faire tellement de choses tous les jours, mais on peut aussi lire la Bible. Et au fur et à mesure, on va apprendre ce que le Seigneur veut. Et quand viendra une forme de persécution par rapport à la doctrine, on sera prêt à combattre tout simplement pour la vérité. On récoltera ce qu'on sème, on l'a dit. Que nous puissions apprendre aussi à aimer pour nous différencier des religieux, avec un amour qui est pratique, pas faire pour faire, comme certains le font, pas par orgueil, mais avec l'amour du Christ, tout simplement, avec beaucoup d'humilité, comme dans une famille, quand on se soutient, enfin normalement, mais comme dans une famille où on se soutient les uns les autres, on s'accompagne, on s'aime, on prend soin l'un de l'autre. Et que le Seigneur nous aide à faire de cette épître un sujet, je pense, de méditation aussi, de la grâce de Dieu. Parce que, oui, il a souvent mis en contraste avec la loi, mais la grâce, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est extraordinaire, non ? On était pécheurs, on ne pouvait rien faire, on se débattait dans notre fange pour essayer de s'en sortir, pour pouvoir être sauvés. On n'y arrivait pas, on s'enfonçait encore plus. Et à un moment, Jésus-Christ est venu et il nous a saisi la main et a donné la possibilité d'en sortir, de ne pas passer l'éternité dans l'enfer, mais de partager son héritage avec lui. Méditer sur la grâce. Et ça, il faut le faire, je crois, tous les jours, parce que quand on le fait, qu'est-ce que ça produit au fond de son cœur ? De la paix. Ça donne envie de la partager avec quiconque veut bien entendre. Ça nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ, ça nous rappelle aussi son amour. Et quand tout ça, c'est bien à foison dans mon cœur, je vais agir comme ça avec les autres aussi, tout simplement. J'ai envie d'être plein de grâce vis-à-vis des autres, j'ai envie d'aimer les autres. Que le Seigneur nous aide dans tous ces domaines qui sont si faciles. Prions. Seigneur, merci pour cette épître aux Galates qui nous montre bien le ravin, j'ai envie de dire, entre la religion et la grâce. Et toi, tu es venu apporter cette grâce qui s'accepte par la foi, et c'est ce que Paul a défendu durant toute cette épître. Et merci de nous l'avoir laissée pour apprendre peut-être aussi à la défendre avec la manière dont Paul l'a fait, avoir des arguments, Seigneur. Apprends-nous à avoir aussi de l'amour, comme nous l'avons vu dans ce chapitre 6, avec les autres, à ne pas juger. Et je sais que naturellement, nous sommes comme cela, mais si cela nous arrive, Seigneur, que nous puissions tout de suite remettre tout ça au fond de notre cœur et apprendre à aimer l'autre comme toi tu l'aimes, sans le juger, avec ce désir de l'emmener à aller plus loin, à guérir tout simplement de ses difficultés. Que cette Église se rende compte qu'elle est une famille. Apprends-nous à nous aimer de cette manière-là. Apprends-nous à nous connaître aussi dans cette famille. Et pas simplement le dimanche, comme on l'avait vu tout à l'heure, mais apprends-nous à prier les uns pour les autres, pour le pasteur, mais aussi pour les frères, pour les sœurs. En tout cas, apprends-nous à aimer tout simplement comme toi, tu nous as aimés. Apprends-nous à aimer ce monde aussi qui est perdu, même les religieux, Seigneur. Apprends-nous à leur parler de toi, à leur montrer ce qu'est la grâce par rapport à la religion, à l'esclavage dans lequel ils sont et cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et permettre que des gens écoutent et t'acceptent aussi dans leur vie. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen.